Dans Colossiens 1,
donc qui est affiché là.
Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai pas... Voilà. Notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous. Tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier, il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. Ok. D'après les instructions que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par la force glorieuse en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, avec joie. Je ne suis pas un pro, hein, vous pouvez le constater. avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Je vais arrêter.
Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Je vais m'arrêter là. Donc la suite, vous lirez chez vous. Hein? Si vous pouvez. Donc, et on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous voyons que nous sommes témoins de ce que tu fais dans la vie de chaque membre de cette église, Seigneur, et tu es au milieu de nous. Et tu nous as fait la promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que chaque jour, tu es là. Chaque jour, tu prends soin de nous. Et nous voulons vraiment que tu prennes le contrôle de toutes choses. Tu as déjà commencé depuis le début du culte, mais nous voulons vraiment que tu continues, Seigneur, à diriger toutes choses, Seigneur, par rapport à la parole. Seigneur, que vraiment que ta parole puisse nous enseigner, que ta parole puisse nous corriger, que ta parole puisse nous redresser, que ta parole puisse nous encourager. Merci parce que tu es présent au milieu de nous, que ton nom soit sanctifié. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu nous diriges, que vraiment que tu nous fasses grandir devant ta face. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc ce matin, je vais vous parler un peu de l'église de Colosse. Donc, on va revenir au début. Donc, Paul reçoit des nouvelles au sujet de l'église de Colosse. Colosse, qui est une ville qui se trouvait à l'époque en Turquie actuelle et qui était pas très loin de Laodicée. Donc, Colosse était une petite ville qui ne jouissait pas forcément d'une grande renommée parce que ce n'était pas une ville très prospère. Bon, je me suis dit en préparant cette étude, peut-être que les Colossiens nourrissaient un peu de complexe vis-à-vis de... des autres grandes villes qui, quant à elles, étaient très prospères et pas elles. Bon, c'est vrai que des fois, on peut nourrir certains complexes par rapport à des grandes villes. Bon, ça vient des States, ça vient de New York, ça vient de Paris. Donc, quand on est dans une ville dans les Landes, on se dit, bon, ben, ça vient de Paris. Bon, ça peut Je ne dis pas que c'est le cas. Bon, donc c'est juste une idée. Donc, cette ville, Paul reçoit en fait des nouvelles au sujet de cette église. Il est informé de leur foi, comme on a pu le voir, de leur amour pour les saints et de quel amour l'Esprit de Dieu les anime. Donc tout ça, ce sont des bonnes choses. Il est au courant de ce qui se passe dans cette église et il envoie un courrier à cette église pour les encourager. En fait, j'ai entendu, voilà ce qui se passe chez vous. Il y a des bonnes choses qui se passent chez vous. Et il est aussi informé, en fait, à cette époque, des menaces, en fait. Hein, des menaces de mauvais enseignements qui guettaient aussi cette église. Et Paul, dans cette église, il y avait des gens qui voulaient associer à l'évangile une sagesse prétendue supérieure. Donc, ramenant à des pratiques d'ascétisme populaire dans cette région de la Phrygie. Culte des anges, bon, vous verrez dans l'épître aux Colossiens, culte des anges, prescription alimentaire, l'observation d'un calendrier rituel. Et dans ce même livre, il leur dit, voilà, l'observance des lieux. En fait, il y avait vraiment des choses qui se passaient. Rigueur pour le corps. Le but de cette sagesse prétendue supérieure, c'était d'atteindre une perfection et une sagesse supérieure à celle que pouvait engendrer la simple foi chrétienne. Donc, ce que vous avez reçu, la foi chrétienne, c'est bien, mais il y a d'autres choses qui pourraient agrémenter votre foi. Et c'était ces menaces-là que connaissait cette église. Et c'est comme nous aujourd'hui, comme l'église d'aujourd'hui peut tomber dans le même piège. Recherche de révélations cachées qui n'a jamais été prêchée, recherche de sensationnel, des choses qui viendrait parfaire l'évangile parce que l'évangile biblique paraît trop simple. Donc il faut chercher autre chose pour agrémenter l'évangile parce que juste dire Jésus est ressuscité quoi, le troisième jour, bon, c'est bien, mais bon, c'est un peu compliqué. Bon, vous les chrétiens, vous croyez un peu à n'importe quoi. Bon, Paul reçoit des informations concernant cette église et au vu des informations qu'il reçoit, Paul va avoir une réaction. C'est ce qui nous amène au premier point que je vais parler. C'est à partir du verset 3. Il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la réaction de Paul aux informations qu'il reçoit de l'église de Colosse, c'est la prière. Paul prie pour l'Église. Et les Colossiens, par cette épître que Paul leur adresse, enfin cette lettre, comme Daniel, par cette lettre qu'ils ont reçue, savent que Paul prie pour eux. Si Paul prie pour eux, eux aussi devaient aussi prier pour eux. Donc, l'Église vit des choses, il se passe des choses dans votre église, nous devons prier. Pas commencer à indexer toi, machin, bon, peut-être que ça va venir après, mais. Mais notre réaction quand nous recevons des informations, en fait, comme Paul, c'est la prière. Et si Paul prie pour l'église, à plus forte raison, l'église de Colosse devait aussi prier aussi pour elle-même. Et Paul nous montre comment nous devons réagir. Par la prière. Priez pour notre église parce qu'il se passe des choses. Il y a des vies qui sont transformées. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Il y a des baptêmes. Nous devons prier pour le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menaces. Mais notre réaction face aux informations que nous recevons sur notre église, c'est la prière. Et la Bible dit, Paul ne cesse de prier pour l'église de Colosse. Donc une église qui prie, c'est une église qui est forte. Une église qui prie, c'est une église qui est sans cesse, en fait, qui est en veille, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses. Parce que Dieu agit au milieu de nous, mais l'ennemi ne reste pas non plus les bras croisés. Mais si nous sommes en alerte, c'est bon. Nous pouvons voir des choses. Nous pouvons prier contre ces choses. Donc la prière, c'est quelque chose qui nous doit concerner tout le monde. Ce n'est pas seulement une affaire de Todd. Ni une affaire de Sylvain ou de Florie. C'est une affaire de tous. Quand nous apprenons ce qui se passe dans notre église, il y a un projet de salle, d'acquisition de salle. En fait, il y a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce que nous faisons? La prière. Paul dit, il a entendu les informations, mais il y a un risque aussi, on ne sait pas si on va avoir les fonds nécessaires pour acheter le local. On veut acheter le local, mais on ne sait pas si c'est... Nous devons fléchir les genoux. Il ne cesse de prier pour l'église de Colosse, parce que Dieu était à l'œuvre dans cette église. Tout comme Dieu est à l'œuvre aussi dans l'église, tout comme Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Donc nous devons prier, il y a des choses qui se passent. Il y a des naissances, il y a des gens qui ont des projets de se marier, il y a des gens qui sont à la recherche de plein de choses, qui veulent vendre leur maison. Bon, merci Seigneur, les parents ont pu vendre rapidement, mais il y a des gens qui ont des projets pour l'Église. Mais nous devons prier, nous devons nous unir dans la prière pour l'Église, comme Paul a fait, je ne cesse de prier pour vous. Et Paul remercie Dieu pour les bonnes choses qu'il faisait à Colosse. Et nous devons aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a l'Église grandit. Bon, après, il y a des gens qui partent. Bon, ça, c'est la vie normale. Il y a des gens qui partent. Bon. Il y a aussi d'autres personnes qui arrivent. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Bon, ça va nous faire mal quand Sylvain et Flo vont partir, mais il faut qu'ils fassent ce que Dieu veut qu'ils fassent. On va prier que la volonté du Seigneur se fasse. Maintenant, si Dieu veut qu'il reste, tant mieux, on sera content. Hein, Sylvain, on pourra toujours aller pisciner, même si je ne l'ai pas encore fait, mais on pourra toujours aller se retrouver parce que c'est des bons moments qu'on passe, Sylvain et Florie. Bon, c'est pas grave. Je crois que je parle trop, donc. En fait, c'est une façon de me dire qu'il faut avancer, en fait, parce que le temps. En fait, comme je disais, il y a des choses. Paul est au courant des bonnes choses. Il est aussi au courant des mauvaises choses. Mais il réagit par la prière. Nous aussi, nous sommes au courant de ce que Dieu fait. Nous voyons ce que Dieu fait dans cette église. Il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. On est des hommes. On pêche tous. Mais on prie pour ce que Dieu fait. Et on prie pour ce que Dieu va faire. Parce qu'il est capable. Ok? Donc, et Paul réagit par la prière. Nous devons réagir par la prière. Et Paul, c'est vrai qu'il réagit par la prière, mais Paul prie pourquoi en fait? Quel est le but de la prière de Paul? Au verset 9. Paul ne cesse de prier pour eux. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ok, je vais m'arrêter là. Donc, Paul ne cesse de prier pour demander la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu pour cette église. L'église a des problèmes. Enfin, il y a des bonnes choses qui se passent à l'église. Il y a aussi des mauvaises qui risquent d'arriver. Paul prie. Le but de sa prière. Oh, purée.
C'est en fait, c'est pas l'antique qui fait le cerveau.
C'est enregistré ça aussi? Paul prie pour que les membres de l'église. Que l'Église soit remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Quelle belle prière. Qu'il soit rempli, une Église qui est remplie de la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Et on veut dire, mais comment ça se passe? Oui, Dieu a une volonté. Et la volonté de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Elle ne se trouve pas dans les livres de philosophie. La parole de Dieu, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons étudier la Bible. Si vous n'étudiez pas la Bible, étudier et méditer. Parce que étudier, c'est quoi? C'est apprendre des vérités sur Dieu. Mais méditer, c'est réfléchir à l'application, à comment appliquer, en fait, ces vérités dans notre vie, en fait. Réfléchir sur ces vérités pour savoir comment les appliquer dans notre vie. C'est ça. La parole de Dieu, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Vous voulez connaître sa volonté? Vous devez lire sa parole. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, qui n'étudie pas la Bible, bon, il aura des informations. Il connaîtra des choses. Mais connaître la volonté de Dieu, ça nécessite une étude de la Bible. Ça nécessite l'étude de la Bible. Parce que Dieu n'a pas d'autre volonté en dehors de sa Bible, en fait. Il nous a tout donné dans sa parole. Et certains peuvent penser, la Bible a toujours été un livre très contesté. Parce que certains pensent que la Bible, c'est un livre pour un autre âge. C'est dépassé. C'est désuet. Bon, je cite tout mon vocabulaire. Tout. C'est obsolète. D'autres ont dit ça avant nous. Mais regardons un peu ce que Pierre va dire. Pierre sort ce passage. Peut-être que les contemporains de Pierre se posaient aussi la même question au sujet de la Bible. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais, j'aime bien ça, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pierre va citer une prophétie, en fait une parole d'Ésaïe. Ésaïe dit la même chose. Le temps d'Ésaïe, peut-être qu'il y avait les gens qui se posaient la question, oui, mais la parole de Dieu, oui, bon, c'est désuet. Mais Pierre redit ça à ses contemporains. Toute chair est comme l'herbe. En fait, les hommes passent. Les hommes critiquent la Bible, mais tous ces gens passent. Nietzsche a dit Dieu est mort. Mais Nietzsche est mort, non? On continue encore à parler de Dieu. On continue encore à attaquer la Bible. Mais la Bible dit la parole du Seigneur demeure éternellement. Ça ne change pas. C'est pour tous les âges. Si nous voulons connaître sa volonté, nous devons étudier sa parole. Et c'est sa parole qui nous donnera, qui nous permettra de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que oui, Dieu a une volonté, Dieu pense des choses. Et c'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. Plus nous la connaîtrons, la parole, plus nous allons savoir ce que Dieu pense. La parole de Dieu est vivante, est permanente pour tous les âges. Elle n'est pas dépensée. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons nous plonger dans sa parole. Je dis bien plonger. Vous voyez quand vous plongez dans la piscine, bon, il faut qu'elle soit remplie, la piscine. Si vous plongez dans une piscine vide, ça risque d'être... voilà. Plonger, voilà, vraiment plonger dans sa parole, pour connaître sa volonté. Les moments d'étude de la Bible, enfin, on devrait tous se retrouver parce qu'il y a des choses, en fait. Il y a des perles, en fait. Il y a des diamants que Dieu donne. Jésus voit Nicodème, il dit, « Quand je t'ai vu sous le figuier... » Sous le figuier, c'était l'arbre préféré des Juifs pour étudier la parole. Pourquoi? Le figuier a une particularité. Aucune des feuilles du figuier ne se ressemble. C'est-à-dire, tu peux lire un texte tous les jours. Chaque fois que tu vas lire la Bible, Dieu va te révéler encore des choses. La parole de Dieu. Ouais, un diamant a plusieurs côtés. Il y a des moments où tu lis la Bible, ça parle à ta situation. Ben, il y a le contexte, mais il y a des choses que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas dépassé, ça. Il voulait hier, il veut aujourd'hui, et voudra demain pour notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ça, c'est pour tous les âges. Il nous a donné sa parole. L'abondance du cœur, que la bouche parle. Dieu nous a révélé son cœur dans sa parole. Son cœur, c'est dans sa parole. Donc, en étudiant la parole, on parle, on dit les choses de Dieu. comme il dit à Isaïe, si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vide, alors ta parole sera... Tu vois, en fait, il y a des choses extraordinaires. Ce que tu diras, en fait, ta bouche sera comme ma bouche, en fait. Ce qu'on va dire, c'est la parole de Dieu. Et ça amène quelque chose pour grandir dans toute intelligence et sagesse. Comme le texte dit, je reviens à Colossiens 9, d'une manière, soyez informés, soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. La parole de Dieu donne la sagesse. La parole de Dieu nous rend intelligents. Et la Bible nous dit, l'homme intelligent, c'est l'homme qui cherche Dieu. Et on va lire un petit texte, voir un peu... Je vais lire ceci parce que j'avais noté la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Spirituel dans la Bible, c'est ce qui vient de Dieu. C'est pas, c'est vrai qu'il y a le monde spirituel qui vient de Dieu. Il y a un monde démoniaque qui est aussi spirituel, mais spirituel qui vient de Dieu. Dans ce sens, c'est une sagesse spirituelle qui vient de Dieu. Cette connaissance de la volonté de Dieu nous permettra de comprendre et de discerner les choses pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Nous saurons comment gérer les choses. Notre intelligence comprend ce que Dieu veut. Par la sagesse, nous passons à la pratique. Prenons l'exemple de Salomon. On va lire un petit texte. Alors... deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. » Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Un peu, vous voyez, quand vous jouez au ping-pong, hein, tu me donnes un peu. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Donc, le roi dit, lundi, c'est mon fils, etc., etc., etc. Bon. Alors la femme dont le fils, je prends à partir du verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. Ah non, je remonte un peu. 24. Puis il ajouta, c'est mon fils, puis il ajouta, apportez-moi une épée, on apporta une épée devant le roi. Le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc voilà un cas. Deux femmes se présentent avec un enfant qu'une a mis au monde, mais l'autre aussi se réclame que c'est son fils. Salomon sait qu'un enfant ne peut pas avoir de maman. On n'a qu'une mère. On peut être adopté, mais il y a quand même une mère. Salomon sait ça. Salomon, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, sait que voilà, on ne peut pas avoir deux mamans. Et pour résoudre les problèmes, va faire quelque chose d'inédit. Demandez en couple l'enfant en deux. Ça, c'est compliqué. Prenez la machette ou le sabre, l'épée, coupez l'enfant en deux. Et on voit la finalité, celle qui est la mère, est identifiée. Salomon, par la sagesse que Dieu lui donne, à l'époque, il n'y avait pas de test ADN, on aurait pu faire un ADN, aujourd'hui, on fait un test ADN vite fait, on sait. Mais Salomon, rempli de la sagesse de Dieu, va faire de quelque chose qui nous paraît, ça, c'est choquant. Mais le but de cela, c'est, par la sagesse, c'est de trouver une solution. La sagesse que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir trouver une solution. Et la mère est identifiée. Celle qui était la mère n'a pas accepté que son enfant soit découpé. Voilà un homme qui est rempli de la sagesse de Dieu. Bon, vous me direz, Salomon, il avait la sagesse, mais pour le choix de ses conjoints, il n'était pas très sage. Bon, cela va nous permettre de parler du troisième point, les conséquences de la prière de Paul. Donc, je reviens un petit peu juste avant de parler. Notez bien que le troisième point, c'est les conséquences de la prière de Paul. C'est être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en fait, nous rend sages. Des fois, il y a des situations qui se présentent. En fait, Dieu nous donne une parole. On a une parole de connaissance, on a une parole de sagesse pour une situation bien précise. Parce que nous sommes connectés à Dieu, parce que nous savons ce que Dieu veut. Salomon, par sa sagesse, nous montre que dans certaines situations, Dieu peut nous inspirer, Dieu peut nous donner, nous dire ce qu'il faut faire, quelle direction prendre. Mais ça, il faut que nous connaissions sa volonté. Maintenant, il y a des choix qui sont clairs. Bon, maintenant, tu ne vas pas aller prier. Je me rappelle d'un jour, quelqu'un me dit, est-ce que j'ai un cousin qui n'a pas de papier, est-ce que je peux lui prêter mes papiers pour bosser? Bon, je dis, tu as vraiment besoin d'une révélation pour ça? Tu n'as pas besoin de révélation. Comment tu peux prier Dieu et faire des faux papiers? Moi, je ne comprends pas, en fait. Où est la logique? Il me dit, oui, mais on m'a dit. Je dis, la personne qui t'a dit, elle est chrétienne? Oui, je dis, non. Je crois qu'elle est croyante, mais chrétienne, je ne pense pas. Parce que Dieu est saint. Okay? Dieu est saint, en fait. Et celui qui s'approche de Dieu, celui qui marche avec Dieu, marche dans la sanctification. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais le chrétien pêche involontairement. Mais si tu pêches volontairement, c'est qu'il y a un problème. Moi, je dis qu'il y a un problème de repentance. Parce que le chrétien, en fait, l'Esprit de Dieu te pousse à pratiquer les œuvres de Dieu, à aimer Dieu, à aimer la sainteté de Dieu. Mais si tu fais les choses et ça ne te dérange même pas, tu peux dormir dans un garage, tu ne seras jamais une voiture. Tu peux venir à l'église, tu ne seras jamais chrétien. Ce qui fait de toi le chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ta rencontre avec le Seigneur. Et ça, ça change ta vie. Tu ne peux plus supporter le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Puisque la sanctification, c'est un processus. On est des hommes, on pêche. Mais quand tu pêches, ton voisin, ou tu l'as insulté, au fond de ton cœur, tu sais que ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu te repens. Tu demandes pardon à la voisine. Hein, si tu as volé, tu rends. Un peu comme Zachée. Quand Jésus rentre dans la vie de Zachée, Jésus n'a rien dit à Zachée. Zachée décide de rendre. Et de donner même en plus de ce qu'il avait pris. C'est ça, en fait, les fruits dignes de la repentance. L'Esprit de Dieu en nous nous pousse à faire les choses de Dieu, à la sanctification. Et je ne sais plus où j'en étais, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. En fait, c'est ça. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous nous pousse à pratiquer les œuvres de Dieu. En fait. Il y a cette transformation que Dieu opère en nous. Voilà, je disais, le chrétien, il pêche involontairement. Mais quand il se rend compte qu'il a fait quelque chose, il se repent. Parce qu'il ne supporte plus sa relation avec Dieu. Il sent qu'il y a une... que Dieu lui dit non, ce que tu as fait n'est pas bien. Parce qu'il est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Il ne supporte plus. Tu as menti. Bon, ben, tu sais que ouais, l'Esprit te dit non. Il est écrit, tu ne mentiras point. Bon. Et comme je disais, Salomon, bon, pour le choix de ses femmes, ça n'a pas été. Il n'a pas été très sage. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, les conséquences de la prière de Paul.
Au verset, je reviens à Colossiens. Les conséquences de la prière de Paul dans la vie des Colossiens, c'était pour marcher, le but de cette connaissance de Dieu, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, le but de cela, c'est marcher entièrement, être agréable à Dieu. Donc, c'est marcher, pour marcher d'une manière digne, c'est quoi? C'est marcher dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Être soumis et obéissant à la parole de Dieu. Et en tout, voilà, et pas à moitié, d'une manière digne, et lui être entièrement agréable dans tous les domaines de notre vie. Et j'insiste là-dessus, cela ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur, qu'on ne péchera pas. Mais chaque fois qu'on tombera, on se relèvera. On demandera pardon à Dieu et on avance. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché, si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste et nous pardonne, pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et c'est vrai que je disais, Salomon était rempli de la sagesse. Bon, il savait ce que Dieu pensait. Ce n'est pas pourtant qu'il n'a pas choisi de femme étrangère. Pourtant, Dieu lui avait dit d'être, pas prendre de femme étrangère qui allait l'éloigner, en fait, de ce que Dieu voulait. Mais marcher d'une manière digne, c'est être entièrement soumis et obéissant à la parole de Dieu. Et non pas que Dieu ne voulait pas que les gens ne veulent pas qu'on épouse des étrangers, c'est pas ce que je dis. Dieu ne voulait pas que Salomon épouse des femmes étrangères parce que c'est des femmes qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie de son peuple, qui allaient l'éloigner de lui. Il était peut-être bien intentionné, mais ces femmes allaient l'éloigner de lui. Et c'est ce qui s'est passé. La parole de Dieu, elle est permanente. Dieu ne se trompe pas. Quand il dit « fais pas », fais pas en fait. Parce qu'il sait pourquoi il te dit de ne pas faire. Et il continue, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les conséquences, c'est porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. On fera des bonnes choses. On est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Rempli de son intelligence, de sa sagesse. On fera des bonnes choses. On va soutenir les missionnaires, on va soutenir... Les réfugiés de ma fac, on va faire des bonnes œuvres. Parce que c'est ce que Dieu veut. Les désirs de Dieu deviennent nos désirs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, tes désirs deviennent... En fait, les désirs de Dieu deviennent tes désirs parce qu'il y a cette communion, en fait. Et il continue, il dit, on progressera. Croissant la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Alors voilà, la connaissance de Dieu nous fait grandir. On saura ce que Dieu veut. Ce qu'on était, on ne comprenait pas hier, mais avec la persévérance, on comprendra en fait ce que Dieu veut.
Ainsi, on pourra abandonner les choses qui ne sont pas de Dieu dans notre vie, à cause de la connaissance de Dieu en nous, en fait. C'est que le chemin que tu prenais n'était pas bon, puisque ce n'est pas en accord avec ce que Dieu veut, parce que tu connais la volonté de Dieu, tu connais Dieu, mais tu changes. Parce que tu le connais. Et comme tu l'aimes, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Si les commandements deviennent pénibles, c'est que, est-ce qu'on l'aime réellement? On peut l'aimer à 50%. 10%, bon, on lui donne la dîme de notre vie. Mais, en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on lui donne totalement notre vie. Et tu seras toujours fortifié. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. En fait, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Mais Dieu va te donner la force. Chaque fois que les épreuves, les difficultés de la vie se viendront, ou tu les vivras, mais Dieu, par son esprit, te donnera la force de surmonter ces choses. Parfois, la vie n'est pas toujours rose, mais des fois, on est surpris de voir, malgré les difficultés, on tient encore debout. Mais cette force nous vient d'où? Mais par l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. Parfois, on a du mal à pardonner, il m'a fait trop de mal. Mais oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de le faire. Hein, on a du mal à supporter le collègue, le patron, je ne sais pas quoi. Bon, Dieu nous donne la force. La force dans les épreuves. La force pour faire sa volonté, la force pour être un bon mari, la force pour pardonner, pour être un bon employé, un bon manager, un bon papa, une bonne mère, pour éduquer nos enfants selon le Seigneur. En fait, Dieu nous donne la force, tu seras toujours fortifié. Dieu ne nous abandonnera pas. On a vu tout à l'heure Sylvain qui, son témoignage, roulait sur deux vis. Bon, j'espère que ça ne nous arrivera pas. On va vérifier nos pneus maintenant. Mais en fait, on voit que Dieu le garde en fait. Si Dieu n'était pas là, bon, les gens, même le mécano a dit, bon, allumer un siège parce qu'il dit, non, c'est pas normal. Oui, mais nous savons que si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous tient debout. Et qu'on soit toujours et avec joie persévérant. Bon, je veux bien persévérer, mais avec joie, c'est pas toujours top. Parce que supporter, des fois, c'est pas évident, mais c'est Dieu qui nous donne cette force-là, en fait. Et quand on lit ça, moi, quand je lis ça, je dis non, franchement, je crois que j'ai besoin de la prière de Paul. J'ai besoin de faire la prière de Paul. Parce que des fois, persévérer, c'est bien. Mais des fois, c'est dur. Mais c'est... Par ma propre force, c'est dur. Mais par la force que communique l'Esprit, c'est plus facile. Parce que c'est Dieu qui nous soutient. Et parce qu'il est midi, je vais m'arrêter là. Et pour conclure, je vais dire ceci. Paul nous montre quelle doit être notre réaction quand nous recevons des nouvelles. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons réagir par la prière, qui est une arme puissante. La prière, c'est une arme puissante. Pour être rempli de la connaissance de sa volonté, pour avoir la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu. Voilà, nous avons besoin d'être remplis de Dieu pour avoir ces choses. Cela nous permettra de marcher en conformité avec sa parole, avec la parole de Dieu, dans tous les domaines de notre vie, dans le but de porter des fruits, faire des bonnes œuvres et grandir dans la connaissance de Dieu. Nous pourrons aussi persévérer dans l'évangile que nous avons reçu. Le véritable, comme Paul a exhorté les Colossiens à le faire, à la prédication de l'Évangile. L'Évangile est vrai. Tout ce qui rajoute des autres choses, comme Paul dit aux Galates, il n'y a pas d'autre Évangile. L'Évangile est vrai. Donc que Dieu nous fortifie, nous donne la force de persévérer dans ce que nous avons reçu de lui. Et ça ne sera pas facile.
pour nous. Mais si nous nous appuyons sur Dieu, il nous donnera la force.